Merci d'écouter le studio Kalangu. Il est 18h, le journal en français avec Anne-Fils Adam. Au sommaire de ce journal, 24 heures après l'attaque perpétrée à Bani Bangou dans le nord de la région de Tillabéri par des éléments non identifiés, quel bilan peut-on faire de cette attaque et quel est l'état d'esprit des populations de la localité? À suivre le préfet Ibrahim Malik ainsi que le témoignage d'un habitant de Bani Bangou. La question de la sécurité au cœur des échanges du comité régional de la paix d'Agadez ce matin. À cette occasion, le ministre d'État à la présidence, Rissa Agboula, demande le soutien de tous pour le maintien de la sécurité dans cette région. Donald Trump, le candidat républicain, est élu 45e président des États-Unis d'Amérique. Réaction de quelques citoyens ici au Niger dans ce journal. La COP22 à Marrakech se poursuit. Notre magazine de ce soir porte sur la question de l'énergie solaire au Niger. Bonsoir à tous. Un groupe d'assaillants lourdement armés à bord d'un véhicule et plusieurs motos a attaqué hier aux environs de 6 heures les positions des éléments de la garde nationale à Bani Bangou. 24 heures après cette attaque, faisons le point sur place avec le préfet de la localité, Ibrahim Malik. Il était joint au téléphone par notre reporter Abdoulaye Mamoudou.
Le bilan est vraiment lourd. De notre côté, il y a 5 éléments de force de défense et de sécurité. De l'autre côté, il y a 3 éléments, des assaillants.
Il y a 21 éléments terroristes qui ont été pris dans la ville de Bani Bangou. Actuellement, les patrouilles sont engagées sur la bande frontalière avec le Mali.
Vraiment, le calme est revenu depuis hier dans la soirée. Nous avons tout fait pour amener les gens à la région, à l'ordre. Et vraiment, tout est mis en œuvre pour que les populations soient rassurées et elles sont déjà rassurées. Chacun va à ses occupations. Il n'y a plus de problème. Je profite pour en féliciter nos forces de défense et de sécurité. Nous ménageons aucun effort pour que cet état d'esprit soit.
Le préfet de Bani Bangou, Ibrahim Malik, que vous venez d'entendre. L'attaque perpétrée hier à Bani Bangou n'est pas sans conséquence sur la situation socio-économique des populations qui vivent d'ailleurs la peur au ventre, c'est ce qu'affirme un habitant joint sur place toujours par Abdoulaye Mamoudou.
Ah, les événements d'hier ont été vraiment des événements très traumatisants. Personne ne s'attendait en tout cas à une telle infiltration d'un groupe djihadiste à Bani Bangou avec un tel dispositif. Cela a vraiment traumatisé la population. Et ce qui a surtout traumatisé la population et nous autres agents de l'État, c'est la violence et la durée que ces combats ont duré à Bani Bangou. L'intensité des combats. Il y a de quoi vraiment avoir peur. Et si vous prenez par exemple dans des secteurs comme l'éducation, où nous avons déjà des difficultés pour avoir des enseignants, avec des situations de cette nature, il faut s'attendre à ce que les gens encore se débinent à venir à Bani Bangou travailler. Vraiment, c'est un choc moral. Je pense que des dispositions doivent être prises pour que des situations pareilles ne se reproduisent. Actuellement, c'est une situation de morosité. On a comme impression que Bani Bangou aujourd'hui ne vit plus après cette attaque-là. Les gens ont extrêmement peur. Surtout que souvent, après des attaques de ces gens, les bandits sont à mesure de miner le terrain. Donc, ça encore, c'est une autre psychose.
Je l'annonçais dans les titres à Agadez, réunion ce matin du comité régional de paix au gouvernorat d'Agadez. Réunion convoquée par le ministre d'État à la présidence, Rissa Agboula. Il s'agissait pour les membres de ce comité d'échanger sur le problème de la sécurité dans la région. Le ministre Rissa Agboula en a tiré des conclusions. Je vous propose de l'écouter.
Aujourd'hui, notre inquiétude, c'est que sur les axes routiers là, il y a des bandits armés, qu'ils soient de toutes les communautaires et même des étrangers, qui rançonnent les populations, qui prennent tout ce que les gens amènent des sites orifères là. Les gens, la population, les usagers qui sont victimes de ça, et si effectivement les FDS n'intervient pas, les gens seront amenés à prendre des armes. C'est clair, nous en sommes conscients. C'est le danger que nous voyons. C'est pour ça que quand on dit il faut que chaque communauté essaye de nous aider à travers la chefferie et on écoute les leaders d'opinion. C'est pour ça que moi je demande et aux autorités régionales et aux autorités coutumières de faire en sorte pour qu'ils puissent apporter leur contribution dans cette question sécuritaire. Vous avez entendu un mouvement armé qui parle au nom de Toubou, qui dit que les Toubou sont ceci, sont maltraités. Les Toubou, on a fait la même lutte ensemble avec eux. On a vu les mêmes accords avec eux, que ce soit je dis, celui de Ouagadougou ou celui d'Alger ou celui de N'Djamena. Tout c'est la même chose. On a eu les mêmes intérêts. Nous avons pris les armes ensemble. Nous avons revendiqué ensemble. Nous avons eu gain de cause ensemble. Maintenant, ne sortez pas pour dire qu'il y a un front Toubou qui revendique des intérêts Toubou qui ne sont pas avec nous. Non. Donc, on ne peut pas apprendre à un vieux singe de la grimace.
La question sécuritaire encore de la région d'Agadez avec cette prise de position rendue publique avant-hier soir d'une organisation appelée Conseil national Toubou présidé par El Hadj Barkassidi et qui dit représenter la communauté Toubou d'Agadez. Ici Fouchegou, représentant de cette communauté au micro de notre correspondant Moussa Maman.
Donc ce qu'on a, on avait des idées, c'est de prendre une décision pour 3 mois pour rompre pour qu'on impose et contrôler vraiment qui est à la base de ces petits problèmes-là. C'est pour revoir ça, on a fait sortir une déclaration dans laquelle on peut prendre une pause sur ces petites attractions-là des véhicules des enfants qui viennent et repartent là. Et contrôler bien afin de prendre notre santé. C'est une décision qu'on avait prise, mais il faut que tout le monde respecte et tout le monde accepte. C'est juste pour contrôler la pagaille. Qui est à la base de cette pagaille? Qui ne fait pas? Qui fait? Notre objectif, c'est d'amener la stabilité dans la ville d'Agadez. Il faut qu'on vive stable avec nos voisins, avec les autres communautés. Parce que si un bandit ou un gars fait quelque chose, on est mêlé dans des affaires et nous sommes tous considérés et notre communauté est indexée. On veut sortir le véritable coupable.
À la surprise générale des instituts de sondage, c'est donc le républicain Donald Trump qui a été choisi hier par le peuple américain pour devenir le 45e président des États-Unis d'Amérique. À l'occasion d'une soirée spéciale présidentielle organisée hier à Niamey au Centre culturel américain, Laurent Ibrahim Gado a rencontré des citoyens nigériens et leur a demandé ce qu'ils pensent du candidat Trump. Réponse dans ses interviews réalisées avant que le résultat ne soit connu.
Lui, Trump, on a l'impression que s'il arrive au pouvoir, c'est comme si l'Amérique serait en guerre contre tout le monde. Parce qu'il a déterminé un certain nombre de mesures qu'il va prendre, qui va peut-être à l'encontre de la politique de beaucoup de dirigeants du monde.
Donald Trump, homme d'affaires, milliardaire, qui n'aime pas les étrangers, qui n'aime pas l'islam, qui veut chasser tout le monde des États-Unis, je pense que souvent, c'est une façon de provoquer l'opinion et de se mobiliser de l'électorat. Mais ça va contre lui, ça va sincèrement contre lui. S'il est élu, je pense qu'il va avoir de sérieux problèmes avec les femmes.
Il a un objectif et son objectif premier, c'est d'être président des États-Unis. En 96 déjà, Donald Trump était candidat aux primaires des élections, bien que bon, il n'a pas pu parvenir. Aujourd'hui, Donald Trump revient avec ce même engagement. C'est l'engagement de réformer les États-Unis parce que, comme il l'a dit, vous conviendrez avec moi, la guerre se fait partout dans tous les continents, mais jusque-là, aucune solution à ces guerres n'a été proposée. Donald Trump a ses atouts, il est engagé, hein, il est déterminé. On a besoin d'un homme qui a ses idées très radicales.
Le candidat républicain Donald Trump est donc élu 45e président des États-Unis d'Amérique, élection très suivie tant en Afrique que dans le reste du monde entier. Selon El Hadj Souleyman Mahmoudou, un Nigérien ayant vécu plus de 5 ans à New York, la défaite de la candidate démocrate a été une surprise des citoyens à travers le monde entier.
Plus qu'une surprise, moi, ce matin, dans un post sur mon profil Facebook, je parle d'éclipse de la raison. Tout se passe comme si, avec cette élection, que la raison a véritablement déserté les consciences des Américains. Pour dire en réalité qu'il y a une surprise, non seulement les instituts de sondage, les analystes ont eu en tout cas un désaveu très sanglant. On ne voyait pas vraiment du tout, alors là, pas du tout venir cette victoire, en tout cas cette surprise. Mais bon, c'est aux États-Unis, il arrive une femme, effectivement, ça l'être aussi une surprise pour le monde, mais lui aussi, vu son profil atypique, c'est un véritable outsider, quelqu'un qui était inconnu en tout cas, et avec tout ce qu'il a comme, je veux dire, profil négatif à l'endroit des femmes, quelqu'un d'impulsif, quelqu'un vraiment qui n'est pas vraiment dans la logique du politiquement correct. Déjà, en tout cas, les bourses sont en chute, parce que simplement le monde entier est vraiment surpris. J'ai entendu un ambassadeur de France qui parle d'un monde qui s'effondre. Effectivement, en tout cas, aujourd'hui, le monde se pose beaucoup de questions. Où est-ce qu'on va?
des propos recueillis par Mokhtar Ahmadou. Au lendemain des résultats des élections américaines, les réactions sont nombreuses au sein de la COP22. Les différents acteurs ont tous en mémoire les déclarations de Donald Trump sur le changement climatique et sa volonté de remettre en cause les accords de Paris. Dans ces premières heures, la prudence reste le mot d'ordre. Salisu Garba, président de la Commission coopération et développement de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie, au micro de notre envoyé spécial à Marrakech, Alassane Kouzi.
D'abord, cette élection est une grande surprise parce que cela a déjoué tous les pronostics, tous les sondages, tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Évidemment, nous avons également suivi ces déclarations pendant la campagne, disant qu'il remettait en cause notamment l'accord de Paris. Son élection nous laisse un peu pantois, interrogatif. Sous réserve de ce que nous arrêterons quand nous allons nous réunir au niveau du Parlement de la Francophonie, nous pouvons dire que nous sommes un peu inquiets, mais l'inquiétude n'est pas très grande dans la mesure où ce matin déjà, en écoutant le président des États-Unis, le président élu, il semblait revenir sur beaucoup de ses déclarations qu'il a faites pendant la campagne. Donc nous osons espérer qu'il ne remettra pas tout en cause. Jamais un accord a été ratifié avec autant de célérité. Donc nous pensons que c'est un accord qui est soutenu par l'ensemble de la planète. Même un pays comme la Chine l'a ratifié. Donc nous pensons que Donald Trump, réaliste qu'il est, ne remettrait pas tout en cause.
Les conseillers de la ville de Niamey viennent de déposer une motion de défiance contre le maire central Hassan Seydou Sanda. Les 22 conseillers signataires de cette motion lui reprochent une mauvaise gestion de cette entité administrative, son incapacité à trouver des solutions aux problèmes de la ville, l'affairisme et le manque de résultats au niveau de la mairie centrale. Le vote de la motion est prévu le 23 novembre prochain à l'hôtel de ville de Niamey. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Mohamed Ben Omar, a présidé ce matin la rentrée universitaire des instituts privés d'enseignement supérieur. Les appréciations de Moudi Adamou de l'Association nationale des centres, écoles et instituts supérieurs de formation.
C'est un défi que nous avons tenu à relever, celui de pouvoir effectuer une rentrée solennelle de l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur privé du Niger. C'est une première. Cette première, je pense que nous allons tirer les leçons et nous permettre de pouvoir ajuster pour organiser des cérémonies de ce genre qui sont encore plus grandioses. L'objectif de cette cérémonie, c'est de montrer l'importance du sous-secteur privé de l'enseignement supérieur privé du Niger. Aujourd'hui, on est en train de parler de 34% de l'effectif de l'enseignement supérieur de façon générale. Notre objectif est que d'ici l'an 2020, l'an 2025, nous puissions atteindre les 50% de l'effectif de l'enseignement supérieur privé du Niger. Donc à ce niveau, et je pense bien aussi à travers les discours du ministre, vous avez vu que le sous-secteur a décidé de s'inscrire dans une dynamique. Première dynamique, c'est que c'est la quête, cette quête d'excellence et de qualité. Notre objectif est de chercher tous les moyens, tant au plan national que sur la scène internationale, qui vont nous permettre de pouvoir dispenser des enseignements de qualité dans nos différents centres de formation.
Moudi Adamou, membre de l'Association nationale des centres, écoles et instituts supérieurs de formation au micro de Moutari Mahamadou. À présent, notre partie magazine au Niger, dans les villes comme Niamey, les populations, pour pallier aux coupures récurrentes d'électricité, se retournent vers les groupes électrogènes, mais surtout vers l'énergie solaire. L'énergie solaire dont l'un des pères fondateurs était un fils du pays, le professeur Abdou Moumouni Diofou. Reylatou Souma s'est intéressé à cette utilisation de l'énergie solaire à travers les panneaux photovoltaïques. Voici son reportage.
Dans ce magasin spécialisé de Niamey, on trouve divers équipements qui fonctionnent avec l'énergie solaire, par exemple des ampoules à basse consommation, des ventilateurs sur pied, des lampes torches rechargeables, etc. Selon ce commerçant, il existe une nette différence entre les appareils solaires et ceux qui fonctionnent avec de l'électricité fournie par la voie traditionnelle.
Vous savez, le coût du matériel se calcule en fonction du besoin en énergie. Donc, plus votre besoin est important, plus vous avez besoin de beaucoup de panneaux. Comme c'est nous-mêmes qui faisons les installations, nous faisons avec le client le poids du matériel nécessaire pour son installation. Le matériel solaire coûte plus cher que les ordinaires parce qu'il consomme moins.
L'énergie solaire permet de fabriquer de l'électricité à partir de panneaux photovoltaïques ou des centrales solaires thermique. Mais l'installation de kits solaires peut peut s'avérer très coûteuse. Ce n'est donc qu'à long terme que les avantages se font sentir sur les plans aussi bien environnemental qu'économique. Le professeur Albert Wright, ingénieur et héliotechnicien à la retraite, nous décrit le système.
Si vous voulez installer un besoin de consommation de 1,5 kW dans votre maison, dans les conditions de Niamey, vous devez investir au moins 3 500 000 francs CFA. Pour avoir d'une part le panneau qui va vous donner du courant continu, vous allez stocker ce courant continu dans des batteries. Vous devez prendre le courant de la batterie et le remettre sous forme de courant alternatif avec un onduleur pour approvisionner les récepteurs commerciaux courants qui généralement travaille avec du courant alternatif.
Avec les coupures récurrentes d'électricité dans la ville de Niamey, les populations s'intéressent de plus en plus au solaire. Exemple d'une utilisation intelligente du solaire, le cas du centre des scouts du quartier Kouarategui de Niamey, qui, depuis 10 ans, marche à l'énergie solaire. Abdourahmane Souleymane Meïga, permanent national de l'association scout du Niger.
Nous avons le solaire, nous avons la Nizelec. Quand les batteries sont faibles, on renverse sur la Nizelec. Quand le soleil est venu, on met sur le solaire. Ce manuel, c'est très pratique. L'avantage, d'abord, le solaire ne pollue pas. Nous sommes des scouts, nous sommes des écologistes, la pollution, ça, c'est catégorique. C'est vrai, à l'installation, ça coûte, mais après, tu n'as rien à payer. C'est nickel, on ne peut plus venir taper à ta porte pour dire une facture.
Les experts sont unanimes. Le meilleur indicateur de développement d'une société reste l'énergie. Et l'énergie solaire est sans doute, disent-ils, la plus adaptée à un pays comme le Niger, où le soleil brille toute l'année. Reste à trouver les moyens de financer les investissements. Rahilat Soumana, Studio Kalangou.
Ce journal est à présent terminé. Restez en compagnie de Diallo Maria Makenda pour le forum du Studio Kalangou. Au revoir.